Marc, chapitre 13. C'est le discours du Seigneur sur le mont des Oliviers à ses disciples. Lorsque les disciples, ils montrent à Jésus les belles pierres de Jérusalem, on ne va pas lire tous les chapitres, hein. Ils montrent les belles pierres de Jérusalem et le Seigneur, il leur dit: regardez bien ces pierres, car toutes ces pierres vont être détruites. Et alors, naturellement, il lui dit, mais quand cela arrivera-t-il, Seigneur? Et le Seigneur, il leur donne des signes qui doivent arriver, des signes qu'on voit déjà aujourd'hui. Voilà pourquoi nous croyons fermement que le Seigneur revient bientôt. Et voilà ce que le Seigneur il dit à partir du verset 28. Il leur parle de ce retour. Et à partir du verset 28, le Seigneur, parce qu'ils ont demandé quand. Et le Seigneur Jésus leur dit à partir du verset 28, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais les pères seuls. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Voilà, le Seigneur, il leur parle, il leur a parlé de toutes ces détresses qui vont arriver. Et encore une fois, ils disent, mais quand ces choses-là? Alors le Seigneur, il leur parle au verset 28, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Pourquoi est-ce que le Seigneur, il a utilisé comparaison du figuier? Le figuier, c'est l'emblème d'Israël. Et il dit, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Vous savez que lorsque Israël et les Romains ils arrivent, ils ont complètement détruit Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Et ils ont dispersé Israël, les Juifs, ils les ont dispersés partout. On n'avait entendu aucune nouvelle des Juifs. Tous les grands empires, ils étaient passés. Et le Seigneur, il dit, lorsque vous verrez les branches du figuier, alors, levez les yeux et sachez que la venue du Fils de l'homme est proche. Ça veut dire quoi, ça? Lorsque la nation d'Israël est revenue au monde en 1948, que l'ONU il a déclaré la nation d'Israël existante, parce qu'avant, il n'existait pas. Mais à partir de 1948, lorsque les branches du figuier, lorsque la nation d'Israël serait revenue, alors levez les yeux et sachez que le temps est proche. C'est la venue du Seigneur, ça. Et Israël, vous savez, Israël, c'est l'horloge des dieux. Quelqu'un dira, mais Israël, aujourd'hui, il fait des choses qui ne sont pas bien. Avec les Palestiniens et tout ça. Mais ça ne regarde pas Dieu. Ça, c'est l'homme qui fait ces choses-là. Ce qui compte, c'est ce que Dieu il a établi avec son peuple, Israël. Israël, c'est l'horloge de Dieu. Lorsqu'Israël renaît, tous les grands empires, ils n'existent plus. Babyloniens, Assyriens, les Mèdes et les Perses, les Grecs. Les Romains, il n'y a plus d'empire. Les Juifs, la nation juive, ils n'existaient pas. Mais lorsque les branches du figuier commenceront à pousser, alors levez les yeux, car le Fils de l'homme est proche. Et c'est là, ça s'est produit en 1948. Et il continue à le dire. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette génération, vous savez qu'une génération, c'est 50 ans. Et des gens, ils ont dit, oui, mais cette génération est passée. La génération de Jésus est passée. Donc, il n'y a pas de... C'est pas vrai ce que le Seigneur il dit. Mais sachez que dans le mot grec, hein, c'est pas seulement génération, mais c'est le mot cette race. Et il dit, le Seigneur, je vous le dis en vérité, cette race ne passera point que tout cela arrive. Quelle race? La race juive. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. La race juive, elle est là. Et cette race ne passera pas que toutes ces choses, ils vont s'accomplir. Vous me direz, mais ça, on est... Mais regardez ce qu'il dit le Seigneur au verset 31. Les ciels et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Tout ce qu'il est dit ici, ça va arriver. En 1948, la nation d'Israël, il a recommencé à pousser ses feuilles. C'est alors que Jésus nous dit, levez vos yeux, car son retour est proche. C'est à partir de là. Et il a dit, mais les jours, et le Seigneur il nous le dit, les jours, personne ne les connaît. Il n'y a que Dieu le Père qui les connaît. Imaginez-vous si nous connaissions les jours où le Seigneur va revenir. Voilà, le Seigneur il va revenir en 2020. On est en 2016, 3 ans et demi, je vais vivre ma vie, je vais faire tout ce que je veux, et 6 mois avant 2020, alors là, prière et tout ça. Non, il peut venir à n'importe quel moment, personne ne le sait. Et ici, le Seigneur, il nous parle, il nous donne une petite parabole. Il nous parle d'un maître et ses serviteurs. Hein? On voit ça. Et alors, il nous a dit cette parabole ailleurs. Il nous a dit que il y avait un maître, il avait quitté son pays. Et ce maître, qui c'est le maître? Le maître, c'est Dieu, n'est-ce pas? Le maître, c'est Dieu. Et ce maître, il a quitté le pays. Jésus, il est venu ici-bas pour nous instruire dans la voie de Dieu, pour que nous puissions avoir à travers son exemple comment vivre pour être agréable à Dieu. Mais le peuple juif ne l'a pas accepté. Mais il est venu, mais sa famille ne l'a pas accueilli. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été rejeté. Il a été tué, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et vous savez, comme moi, qu'un jour, le Seigneur, il est parti. C'est l'ascension. Alors, le maître, il a quitté la terre. Il est parti pour un grand voyage. Il a quitté cette terre d'humiliation, de tristesse. Les gens, ils n'ont pas voulu de lui. Et pourtant, il a fait des grandes choses. Mais il est parti pour un voyage. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Il a appelé ses serviteurs et il leur a donné une tâche. Les serviteurs, qui sont les serviteurs du maître? Mais tous ceux qui font la volonté de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et c'est ça, le Seigneur, il a fait. Il est parti en voyage et il a donné une tâche à ses serviteurs. Et notre tâche, c'est d'accomplir la volonté de Dieu en toutes choses, de répandre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il y a cette parabole de maître des serviteurs. Je suis en train de vous le dire comme ça parce que j'ai perdu la référence. Hein? Voilà pourquoi J'aurais pu le lire, mais j'ai perdu la référence. Je m'en excuse. Hein. Je ne m'en souviens plus où c'est. Je crois que c'est dans l'évangile de Marc, hein, mais je ne m'en souviens plus. Mais il raconte l'histoire de ce maître qui est parti pour un voyage. Et il a appelé ses serviteurs et il leur a donné une tâche. Et cette tâche, c'est de répandre les enseignements de ce maître, de s'occuper de ses affaires. Et nous sommes là, en tant que fils de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes là pour s'occuper des affaires du maître. Et celui qui ne le fait pas, il n'accomplit pas la tâche que le maître leur a donnée. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous, chrétiens, nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Parce que si le Seigneur, il nous a sauvés, je vous le dis souvent, hein, mais il faut que je répète ces choses-là. Parce que dans la Bible même, le Seigneur, il nous dit constamment, rappelle-toi, souviens-toi. Répète, Paul le disait à Timothée, répète ces choses. Pourquoi? Parce que nous oublions si facilement. Alors nous devons accomplir la tâche du maître. Et le Seigneur, il a donné une tâche à chacun de nous. Il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui dise, oh, mais moi j'ai aucune tâche. Non, le Seigneur, il nous a donné une tâche parce que nous lui appartenons. Et nous devons faire, nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Et c'est ça que nous devons faire. Il y avait un monsieur à côté du lac du Com, en Italie, qu'il avait soin d'une grande propriété, avec un énorme jardin beau, avec plein de fleurs, d'arbres et tout ça, mais voilà. Il était toujours dans un parfait état. Et alors, des gens, ils sont venus le visiter. Et ils ont dit, ah, il est beau ton jardin, tu t'en occupes bien. Il a dit, ah, qui c'est qui appartient? Bon, il appartient à tel. Et il a dit, mais tu t'en occupes bien. Ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu? Oh, ça fait 30 ans qu'il n'est pas venu. Et il a dit, mais comment ça se fait que tu t'en occupes si bien? Je m'en occupe bien parce qu'il m'a dit, voilà, occupe-toi de mon jardin, je vais revenir, mais il ne l'a pas donné la date, et ni l'heure. Et il a dit, il peut se présenter à n'importe quel moment. Et s'il trouve son jardin dans un mauvais état, mais c'est moi qui vais en payer les conséquences. Et c'est la même chose à travers notre propre vie. Le Seigneur nous a donné des tâches à chacun de nous. Mais vous direz, mais nous, on n'a pas la force. Voilà, ce maître... Il connaissait ces choses-là. Voilà pourquoi il leur a donné tous les moyens. Et par rapport à nous qui sommes des chrétiens, on peut dire, mais je ne connais rien, je ne sais rien moi, je ne sais rien faire, je ne sais pas parler. Et c'est là que le Seigneur, il a donné à tous ceux qui lui appartiennent, à ses serviteurs, il leur a donné une puissance, le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il est dans le cœur de tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Et c'est quoi ce Saint-Esprit? C'est Dieu manifesté dans nos cœurs. Il a établi sa maison au plus profond de nous-mêmes. Et c'est la puissance de Dieu. Et c'est avec cette puissance que nous pouvons faire toutes les choses que nous devons faire pour que les maîtres puissent en retirer toute gloire et tout honneur. Voilà pourquoi nous n'avons aucune excuse. Le Seigneur, il nous a donné toutes les possibilités pour que nous puissions accomplir cette tâche. Mais là, il revient encore. Est-ce que nous accomplissons cette tâche? Des fois, nous nous limitons à dire, Seigneur Jésus, voilà, je suis pécheur, je reconnais que je suis pécheur, donne-moi, accorde-moi ton salut, je vais être ton enfant. Et ensuite, on ne fait plus rien. Ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est manifester le pourquoi le Seigneur nous a sauvés. Parce que s'il nous a sauvés, c'est parce que nous devons propager cette bonne nouvelle. Le Seigneur, il n'est plus là. Donc, qui c'est qui doit annoncer ces choses à tous ceux qui encore ne connaissent pas? C'est nous. C'est moi, c'est vous. Je mets toujours l'emphase sur l'évangélisation, sur les témoignages. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Vous savez, moi j'étais élevé dans la religion catholique. Ma mère, elle voulait un prêtre, absolument un prêtre dans sa famille. On est trois frères, on y est tous passés. Moi, je suis resté 9 ans. Il voulait un prêtre. Un jour, quelqu'un est venu, il m'a parlé du Seigneur. Et j'ai tout quitté. Si ce monsieur ne vient pas, quelle aurait été ma vie? Quelle aurait été ma vie? Une vie sans espoir, une vie sans paix. Un peu la même vie qu'ils ont tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur cœur. On peut être heureux dans des circonstances, dans des moments spécifiques. Vous l'avez expérimenté aussi, hein? Lorsque vous êtes dans la joie, ou pour un mariage, ou pour une sortie, ah, vous êtes tout content, mais tout de suite après. Voilà. Mais le Seigneur, il a dit, je vous donne ma joie. Et la joie de Dieu au plus profond de nous-mêmes, il peut nous arriver n'importe quoi. Nous aurons toujours cette joie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous me direz, c'est facile à dire, mais à faire. Oui, je sais. Je sais que c'est très difficile. Mais si nous faisons confiance à Dieu, si nous savons que Dieu il nous a fait cette promesse, il faut le croire. Le Seigneur Jésus, il a dit au peuple juif, à ceux qui le refusaient, il a dit, je suis venu ici-bas pour vous montrer qui est Dieu. Et il a dit, mais vous n'avez pas voulu. Mais vous n'avez pas voulu. Mais Jésus, il est venu pour cela. Le plan de Dieu, c'est que tous, ils soient sauvés. On l'a chanté, on a un Dieu d'amour. Quand je pense qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, Aldo, qui c'est Aldo? C'est rien. Mais Dieu, il a pensé à moi un jour. Il a envoyé quelqu'un. Il m'a dit, va voir Aldo. Il a besoin de connaître la vérité. Et c'est pour ça qu'il nous a sauvés. C'est pour ça qu'il nous a sauvés, le Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il a fait, ce maître. Il est parti pour un long voyage et il a donné les dispositions à ses serviteurs pour qu'ils puissent s'occuper de ses affaires. Parce que Dieu est riche et il nous a donné toutes les possibilités pour faire et accomplir sa volonté ici-bas. Nous avons le devoir de le faire. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Mais il y a aussi ce qu'il fera, ce maître. Parce qu'il est parti pour un grand voyage, mais il nous dit, je veux revenir bientôt. Je veux revenir bientôt. Il reviendra. Il a laissé, et il nous a dit, il a laissé sa maison déserte. Et vous savez que le Seigneur Jésus, il avait dit au peuple juif, bientôt votre maison sera laissée déserte. C'est-à-dire que je m'en irai. Et vous allez prier pour que je revienne. Mais le Père, il a préparé ses jours. Et il n'y a que lui qui connaît ses jours. Mais il reviendra, une chose sûre. Pourquoi est-ce qu'il revient? Mais pour voir ce que ses serviteurs, ils ont accompli. Parce que nous avons cette tâche. Et en attendant ce retour du Seigneur, nous devons agir. Nous ne devons pas rester oisifs. Parce qu'il y a tellement de gens tout autour de nous qui encore ne connaissent pas le Seigneur. Il y a dans nos familles, il y a dans ma propre famille, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas par faute des témoignages. Mais je ne dois pas m'arrêter. C'est mon travail d'annoncer, de continuer à marteler que le Seigneur Jésus est Seigneur, que le Seigneur Jésus est le seul qui peut les sauver, que s'ils continuent sur cette route-là, ils iront en enfer. C'est mon devoir de leur dire. Et je suis sûr que dans vos propres familles, des gens que vous connaissez, qui ne connaissent pas le Seigneur, et c'est à vous de leur parler du Seigneur. Car nous sommes ses serviteurs. Il nous a donné cette tâche à chacun de nous. Et lorsqu'il va revenir, il va revenir en tant que maître, pas comme il est venu la première fois, dans l'abaissement, dans l'humiliation, dans la honte, parce que tout c'était contre lui. Lorsqu'il va revenir, il va revenir dans la gloire. Dans la gloire. Pour faire quoi? Pour que ce monde y rende compte de ses agissements. On voit aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, toute cette tristesse, n'est-ce pas? Qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire? Mais un jour, j'ai entendu même des gens qui ne croient pas dire oui, mais un jour la vérité éclatera. En disant cela, ils espèrent qu'un jour il y aura quelqu'un qui fera éclater toutes ces choses-là. Mais c'est quelqu'un, ces gens-là, ils ne le connaissent pas. Ce quelqu'un est Jésus-Christ. Car c'est lui qui va régner ici-bas. On l'a vu dans Apocalypse. Et le règne de l'agneau, il s'établira ici-bas sur cette terre. Et il y aura le jugement de tous ceux qui n'ont pas voulu le connaître. Mais nous, en tant que chrétiens, avant que le Seigneur Jésus vienne, en tant que juge, il viendra sur les nuées pour enlever son Église. Et une fois qu'il nous a enlevés, il y aura le tribunal de Christ. Or, on ne pense pas à cela. Qu'est-ce que c'est que le tribunal de Christ? Le tribunal de Christ, c'est là que le Seigneur Jésus, à tous ceux qui l'ont accepté en tant que Seigneur et Sauveur, il le mettra en évidence devant tout le monde, devant tous les sauvés, et là, il y aura les jugements des œuvres. Pas les jugements du salut, parce qu'ils sont sauvés, mais les jugements des œuvres, c'est-à-dire... Qu'est-ce que, Aldo, qu'est-ce que tu as fait du salut que je t'ai donné? Je t'ai donné le Saint-Esprit, je t'ai donné des moyens de pouvoir témoigner à droite et à gauche. Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est là que, comme nous dit Paul, il y a les actions que j'aurais faites pour moi-même ou pour me mettre en évidence. Toutes ces choses-là, ils vont fondre, ils vont être brûlées. Qu'est-ce que c'est qui va rester? Quelles choses que j'aurais fait pour la gloire de mon Seigneur et de mon Maître. Et ces choses que j'aurais fait pour le Seigneur, ils vont rester, et c'est là qu'il me donnera une récompense. Vous voyez, on a un Dieu plein de grâce. Non seulement il nous donne le salut, et c'est déjà quelque chose d'énorme, mais en plus il nous donne des récompenses. Des dons, des couronnes, il nous est dit dans la Bible. Bien sûr, nous ne méritons rien. Mais ces couronnes que soi-disant le Seigneur il nous donnera, à quoi est-ce qu'ils vont nous servir? Pourquoi il nous donne des couronnes? Parce que nous sommes des rois. Il a fait de nous un peuple, un royaume. Et il nous est dit que nous régnerons avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une couronne? Suis-je digne d'avoir une couronne, même si le Dieu il me le donne? Non, je ne suis pas digne. Alors, qu'est-ce que c'est que je dois faire? Prendre ma couronne et la mettre aux pieds de celui qui seul est digne de recevoir toute chose. Mais si vous n'avez pas de couronne, si vous n'avez pas de récompense, qu'est-ce que vous allez offrir à votre Seigneur et à votre Sauveur? Rien. Vous serez sauvés, nous serons sauvés, mais aucune récompense. Voilà pourquoi il y aura aussi des pleurs. Parce que la chose, elle va se passer devant tout le monde. Peut-être ici-bas sur terre, à l'église, je peux paraître quelqu'un qui est très spirituel, qui fait des grandes choses, mais une fois que nous serons là-haut, devant le Seigneur, devant le tribunal de Christ, le Seigneur, il va me mettre sur une échelle, je ne sais pas, ou sur une chaire comme ça, et il va parler de moi. Et vous, vous êtes là. Elle me dit, hey, Aldo, t'as pas fait ça et ça et ça. Vous, vous êtes là, vous dites. Eh ben, dis donc. L'apparence. Devant le Seigneur, ce n'est pas l'apparence qui compte. Hein. Nous faisons beaucoup d'attention à cela. Oh, regarde comme il est bien, lui, là. Ah, qu'est-ce qu'il aime le Seigneur. Mais dehors, est-ce que vous connaissez cette personne? Vous ne connaissez pas, hein? À l'église, oui. Mais dehors, est-ce qu'il accomplit la volonté de Dieu? C'est ça qui compte. Voilà pourquoi ce maître, il doit revenir, il doit nous prendre et il doit nous mener à ce jugement, à ce tribunal de Christ. À ce tribunal de Christ. Et c'est très important, ça, que nous soyons capables de dire devant le Seigneur, oui, j'ai accompli ta volonté. J'ai accompli ta volonté. Qu'est-ce que c'est que les serviteurs, ils doivent faire en attendant ce retour? Le Seigneur, il nous dit, prenez garde, veillez et priez. Veillez, pourquoi? Parce que nous ne savons pas quand le Seigneur doit venir. Donc il faut veiller, il faut être toujours prêt. Si on tombe dans les péchés, tout de suite il faut retourner vers le Seigneur. Car si vous restez avec votre péché, le Seigneur il va revenir. Vous ne serez pas maudit. Vous ne serez pas en communion avec le Seigneur. Car lorsqu'on accepte le Seigneur dans une profonde humiliation et dans une profonde repentance, une nouvelle naissance vraie, alors là, on est sauvé pour l'éternité. Et si nous tombons dans les péchés, nous devons tout de suite retourner. Pourquoi nous les faisons? Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dit, Aldo, tu as péché, tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Donc si je te dis que tu n'es pas en communion avec le Seigneur, il faut revenir, il faut demander pardon. Car si je demeure dans cette... Et si le Seigneur il revient? Vous savez que le Seigneur... La chose que chacun de nous, je crois, il doit attendre du Seigneur, c'est que le Seigneur, une fois qu'il a examiné notre propre vie, nos œuvres, qu'il dise à chacun de nous, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos que ton maître a préparé pour toi. Voilà pourquoi c'est très important. Et voilà pourquoi il faut faire très attention à notre propre vie de chrétien. On se dit, oh, je suis chrétien, ça va, maintenant je suis en place. Non, c'est là qui commence le vrai travail. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous avons à nous un message à délivrer. Pas le message d'Aldo, mais le message de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas le messager, mais c'est le message. C'est le message qui compte. Et le message à nous, c'est de venir à Jésus-Christ, de l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur, et leur dire que la porte de Dieu, la porte de la grâce de Dieu, elle est toujours ouverte. Dans la Bible, vous savez, il n'y a pas demain, après-demain, l'année prochaine, la semaine prochaine. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul jour, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Oh, demain je vais les faire. Non, la Bible ne connaît pas demain. C'est aujourd'hui. Parce que demain, tu ne sais pas si tu vas te lever demain matin. Et si tu n'as rien fait, tu vas être maudit. Tu vas aller en enfer. Et Dieu ne veut pas qu'on aille à l'enfer. Il y a un verset, je l'ai marqué ici, dans Ézéchiel 33, 19. C'est l'Éternel qui parle. C'est Dieu qui nous parle. Et il dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de comportement et qu'il vive. Voilà les souhaits de Dieu. Que le méchant, il se repente et qu'il vive. Normalement, le méchant, il doit mourir. Pourquoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, il dit, je ne veux pas ça. Je désire qu'il vive. Et pour vivre, il n'y a qu'un seul moyen. C'est de se repentir de ses propres péchés. De se tourner vers le Seigneur. Voilà pourquoi il termine ce verset en disant, revenez de votre mauvaise vie. Revenez. Pourquoi il dit revenez? Parce qu'avant, nous étions auprès de Dieu. Mais nous nous sommes rebellés en Adam et Ève, et nous nous sommes éloignés de Dieu. J'entends des gens qui disent « Oui, mais ce n'est pas moi qui ai péché, c'est Adam et Ève qui a péché. Pourquoi est-ce que Dieu il m'accorde cette faute ?» Ben oui, Adam et Ève, c'est les premiers hommes. Mais Dieu, il nous dit aussi ça. Il a dit « Oui, le premier homme, il a porté la mort et la destruction. Mais le deuxième homme, il a porté la vie. Si tu veux, si tu ne veux pas mourir, tourne-toi vers la vie. » Oui, mais Adam, c'est pas ma faute. Oui, c'est les premiers hommes. Mais Dieu, en te condamnant, il te dit aussi, voilà, il y a le deuxième homme, tourne-toi vers lui et tu vivras. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils cherchent plein d'excuses. Hein? Et comme j'ai dit, si on n'étudie pas la parole de Dieu, comment voulez-vous répondre à toutes ces choses-là? C'est ça. J'ai lu avec mon frère, j'ai parlé du divorce. Il a dit, oui, c'est logique de divorcer, c'est pas bien. Il te dit, Dieu, il te dit de ne pas divorcer. Ouais, mais je ne vais pas dans Dieu comme ça, parce qu'il m'enlève ma liberté. Il ne t'enlève pas ta liberté. Il te dit seulement ce qu'il faut que tu fasses. Dieu est le divorce. Bien sûr, il y a des chrétiens aussi qui divorcent. Hein? Et il y a même des pasteurs qui divorce. Et Dieu, il comprend cela. Mais lorsqu'on divorce, on pêche, n'est-ce pas? Et lorsqu'on pêche, qu'est-ce qu'on fait? Si on est chrétien, on se tourne vers Dieu. On confesse ce péché. Est-ce que Dieu nous pardonne? C'est une question que je vous pose.
Non.
Non? Si on demande pardon à Dieu, est-ce que Dieu nous pardonne? Et alors, c'est oui, c'est pas non. Est-ce que nous sommes toujours des pécheurs? Non. Mais chaque péché, il a son résultat. Hein, tu peux tuer quelqu'un, tu demandes pardon. Dieu te pardonne. Mais il y a la prison. Mais tu es pardonné. Et le divorce, c'est pareil. On peut divorcer en tant que chrétien. Tu demandes pardon et tu es pardonné. Mais Dieu, il te dit, interdit de rencontrer des femmes ou des hommes. C'est ça la punition. Vous vous en souvenez, David, quand il a péché avec Bathsheba, il a son enfant. Sauve mon enfant. Et Dieu lui dit, non. Il est mort. Hein? Il ne mangeait pas, il ne dormait pas, la barbe longue et tout, tristesse. Les jours après, il s'est rasé, il a mangé. Il a dit, mais comment, ton fils meurt et tu... Ben, il a dit, voilà, Dieu ne m'a pas... Voilà, je prends ma vie. C'est ça que les hommes, ils ne désirent pas entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Mais Dieu, il va intervenir dans ce monde. Ce qui compte, c'est que chacun de nous, il soit trouvé fidèle. Qu'il soit prêt. Car une fois qu'il revient... Nous l'avons chanté, hein? Nous serons avec lui pour toujours. Pour toujours. Et pour terminer, je vous invite à prendre ce cantique merveilleux. Quel repos céleste! Ce repos que seulement si on a Jésus-Christ dans notre cœur, nous pouvons avoir. Hein? C'est les 315. Quel repos céleste! C'est un repos avec Dieu. Mettons au plus profond de nous-mêmes cet enseignement que Jésus-Christ, il est parti, mais il va venir.